voudrais vous raconter l'histoire du temps. Ou plutôt l'histoire d'une femme. Une femme qui aime le temps, même si le temps lui fait un peu peur. Une femme qui aime le temps car elle aime la vérité. Elle arrive souvent en retard et ses amis le lui reprochent, mais ce n'est pas de sa faute. C'est la faute au temps. Il n'arrête pas de passer. Et quand la nostalgie la prend, elle reste de longues minutes à contempler le passé. Un peu comme ces étoiles dans le ciel la nuit, la plupart sont éteintes mais on les voit encore. Leur lumière met tellement de temps à nous parvenir qu'on contemple le passé, la présence du passé devant nos yeux. La nostalgie ne lui déplaît pas, elle s'enroule dedans comme dans une couverture. Elle aime aussi beaucoup l'avenir. Elle se projette, elle espère, elle imagine. Elle ne sait plus trop où elle a lu cela, mais ça lui plaît bien cette phrase. Nous habitons le fleuve du temps. Le fleuve du temps, c'est pas mal comme adresse. On est loin des idées éternelles de Platon, et ça lui plaît bien. Elle a souvent la tête ailleurs parce qu'elle a la tête ailleurs que dans le présent. Les psys appellent ça parfois un TDAH, un trouble de l'attention. Mais c'est peut-être simplement la vraie vie, la vie de ces étranges animaux que sont les animaux humains. Ils ont tant de souvenirs et de désirs, tant de regrets et de projets, qu'ils ratent le présent. Mais quel joli ratage, quel délicieux fiasco. C'est une belle vie finalement, faite de mémoire et d'impatience. Elle rend par contraste les instants de pur présent tellement bons, tellement intenses. Comme des miracles arrachés à la fuite du temps, des exceptions qui confirment la règle. Cette fois, je suis là, vraiment là. C'est rare, mais c'est bon. C'est rare comme le feu de tes yeux dans les miens. C'est bon comme ton corps quand il réveille le mien. C'est bon comme un shoot de joie pure. Comme une émotion qui met tout le reste en veille, en sourdine. C'est la revanche du présent, le mystère de la présence. Soudain, tout est là, ramassé, condensé. Ce temps qui d'habitude s'étire, s'éloigne dans le passé ou se distend vers l'avenir, le voilà tout entier ramassé dans l'instant. Il faut qu'elle prenne sa guitare et balance le premier riff pour connaître ça. Quand elle monte sur scène, le passé reste en loge. L'avenir aussi, même s'il lui sourit. De toute façon, maintenant, dans cette grâce du présent revenu, c'est au public qu'elle sourit. Pour en parler ce matin, parler de quoi d'ailleurs? Du temps qui passe ou du temps qui reste? Du temps qui presse ou du temps qui manque? J'ai le plaisir de recevoir la grande Sophie, qui a développé souvent ce thème dans ses chansons et qui nous a rejoint sous le soleil de Platon pour nous aider à prendre notre temps.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
La grande Sophie, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Merci de m'inviter.
Bah oui, c'est un vrai plaisir.
C'est joli ce que vous... Il y a une phrase que j'ai retenue de ce que vous avez dit, le passé reste en loge.
Voilà.
On pourrait, ouais, je pourrais,
l'avenir aussi.
Je pourrais en faire une chanson, peut-être. Ben
avec plaisir. Je ne demanderai pas de droit d'auteur. Enfin, aussi d'ailleurs.
Et en revanche, donc c'était un portrait, c'est ça, hein, en quelque sorte, que vous venez de faire.
Oui.
Parce que j'arrive toujours en avance, jamais en retard.
Alors c'est le principe.
J'ai été troublée par cette phrase.
C'est le principe du portrait subjectif. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont clairement vous, notamment ce moment où vous retrouvez le présent en concert, et des éléments qui sont empruntés à d'autres vies. Et ça fait un portrait subjectif, et en fait l'idée, vous êtes la première à poser la question frontalement, c'est de troubler un peu l'invité qui ne sait pas trop si c'est lui ou quelqu'un d'autre, et qui au fond
est
cul entre deux chaises.
Mais ça me fait réagir, puisque bah, vous voyez, arriver en avance, c'est un de mes problèmes dans la vie.
Oui, j'ai vu, là, vous étiez bien en avance aujourd'hui.
Oui, mais tout le temps. Alors, parce qu'en fait, je sais pourquoi maintenant. Je me suis posé des questions, mais j'arrive en avance parce que je suis contente d'être là.
Et, ah
oui,
mais vous arrivez en avance, par exemple, même à un dîner chez des amis?
Alors, tout le temps, jusqu'à ce qu'un ami me dise que ça pouvait être mal poli.
Alors, ça, c'est perçu parfois comme très mal poli dans certaines cultures.
Oui.
Mais c'est surtout très oppressant si le dîner n'est pas prêt.
C'est ça, donc je donne un coup de main.
Ouais, c'est vu comme ça, ça va. Alors, dans plein de vos chansons, il y a ce temps comme ça qui passe, il y a une femme qui se réveille et puis qui est surprise parce qu'elle voit dans le miroir, vous parlez du temps qui reste, du temps qui presse. Finalement, pourquoi quoi, cette récurrence du thème du temps?
J'ai l'impression que j'ai été bercée par mes grands-mères à ce sujet-là, je les entendais souvent dire... C'est difficile de vieillir. J'avais une grand-mère aussi qui se regardait souvent dans la glace. Et un jour, je suis arrivée derrière elle et j'ai vu qu'elle se mettait des bouts de scotch sur sa pour tirer sa peau. Et donc, je voyais que le temps, en fait, quand on prenait de l'âge, c'était plus compliqué. Ça, on me l'a beaucoup fait entendre.
Même petite.
Oui, dès petite, en fait, j'entendais, et là, j'ai encore une de mes grand-mères qui a 99 ans, et elle le répète sans cesse, alors j'ai ça qui se martèle dans ma tête, alors que j'ai de bons exemples aussi de quand on prend de l'âge avec mes parents qui sont en excellente forme, mais on m'a dit ça, et c'est resté dans un coin de ma tête.
Surtout qu'on pourrait presque se dire que bien vieillir, au fond, c'est le but d'une vie. D'être beau et vieux. D'ailleurs, on avait reçu Pascal Bruckner à ce sujet, l'essayiste qui a fait un livre entier là-dessus, qui nous donne au fond une philosophie de vie dans laquelle le but c'est de trouver la sagesse adaptée à chaque âge de la vie. Et peut-être que notre jeunisme, au fond, nous fait rater quelque chose de beau.
Le jeunisme, vous voyez, là, vous tombez sur un mot qui est apparu dans ma vie sur mon dernier album, par exemple. J'ai entendu ce mot qui m'envahissait. Il n'était pas dit de manière péjorative, mais il circulait autour de moi et je me suis posé des questions. Et en fait, on me le disait parfois avec bienveillance, mais ce mot apparaissait toujours. Et je me suis dit, il se passe quelque chose. C'est qu'on est en train de me faire remarquer mon âge.
C'était ça ?
Oui, je pense. Indirectement.
Que je comprenne bien, je vous interromps, mais c'est parce que je veux être sûr d'avoir compris. En fait, on vous traitait de jeuniste, vous-même.
Non, ce mot apparaissait tout le temps. Et je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi j'entends ce mot ? Et je pense que c'était lié à mon âge. J'ai eu 50 ans et on me faisait remarquer. Avant, j'avais jamais entendu. Dans mes projets, on me parlait jamais de. J'entendais jamais ce mot-là. Je le connaissais, mais on l'employait jamais. Et là, à différentes reprises, je l'ai entendu et je me suis dit tiens, pourquoi ? Et je sentis que je franchissais une barrière.
Alors peut-être que vous allez avoir une clé d'explication dans ce son.
Vu le temps qui passe, les années qui défilent, je regarde en face, les portes claquent sur mes joues, des questions à devenir fou. Vu le temps qui presse, les traces sur mes joues laissent des maladresses. Pourquoi on s'est dit-tu, de toute façon, on ne se reverra plus. Elle était jolie l'histoire, elle s'envola en haut des cimes. Mais le silence m'a laissé croire que j'avais commis un crime. Elle était dans ma mémoire, au bout du rêve, loin de la routine.
Alors cette chanson donc, qui s'appelle Les Portes Claques, que je trouve très belle, on retrouve encore ce thème, oui. Finalement. Vous pensez que quand vous chantez, vous arrêtez quelque chose de cette fuite du temps, ou au contraire, vous vous inscrivez dans ce mouvement ?
Redites-moi votre phrase.
Disons que quand on chante, je ne suis pas chanteur, mais on est plugué sur une sorte d'énergie.
Oui.
Est-ce que c'est celle de la fuite du temps finalement, parce qu'il y a du rythme, donc le rythme scande la fuite du temps, ou est-ce qu'au contraire, on est dans un instant suspendu dans lequel le temps s'arrête ?
Moi, quand je chante, c'est pour ça aussi que j'aime la scène. Je dirais que je suis dans un instant suspendu où je réalise pleinement le présent, parce que j'ai des regards en face de moi et je ne peux pas faire autrement que d'être là. Vous imaginez si je chantais et que je pensais complètement à autre chose, ça marcherait pas du tout. Et alors que là, je suis vraiment ancrée dans le présent et c'est ce qui me plaît par-dessus tout avec la scène, parce que c'est un des moments rares où j'arrive à m'y plonger.
C'est là qu'on comprend la magie de certains métiers, parce que c'est quand même un métier. Il y a des métiers où on peut pas avoir cette chance. Si on a des soucis, si le passé nous pèse, en fait, on peut pas avoir cette grâce du présent parce que il y a pas de public, parce qu'il y a pas de musique. C'est quelque chose qu'on trouve aussi dans certains métiers, mais qui est rare. Est-ce que finalement cette chance-là, c'est celle qui vous rend si présente en concert, qui vous permet de presque d'oublier tout ce qui n'est pas le présent, quoi?
Bien sûr, ça permet d'oublier, ça permet aussi c'est tellement, la scène aussi, c'est tellement différent chaque soir que ça permet il y a quelque chose d'instinctif. C'est comme si moi, quand j'arrive sur une scène, c'est parfois un petit peu animal. Je sens l'odeur, ouais. je cherche, je n'aime pas être, par exemple, ébloui par une poursuite. Je vais chercher l'autre, je vais chercher le contact. Et c'est là où chaque soir, ce contact-là, on ne peut pas le prévoir. Il y a quelqu'un qui va se lever, qui va danser, il y a quelqu'un qui va m'interpeller, il y a quelqu'un qui va, une salle va se mettre à chanter. Tout ça, c'est assez magique. On ne peut pas le prévoir. C'est ce qui me plaît. Oui.
C'est quoi votre plus beau souvenir de scène ?
Alors, quand on a repris, parce qu'on a repris au mois d'octobre, les concerts, on a eu cette chance-là, quand on est sorti de scène en chantant Missive, toute la salle s'est mise à chanter le pas avec les paroles, mais en fredonnant jusqu'à ce qu'on revienne, et ça grandissait, le son grandissait, et j'ai trouvé ça très très beau.
Alors ça me fait penser, cette espèce de chose qui revient et qui en même temps s'arrête, à un concept de Nietzsche que j'aimerais avoir votre réaction. C'est un concept très débattu, c'est l'éternel retour. Alors Nietzsche dit, voilà, peut-être que tout revient toujours, et qu'on devrait être capable de ne vivre des instants, de ne vivre que les instants qu'on aime assez pour qu'ils pourraient, pour qu'ils puissent, pardon, revenir éternellement. Ça veut dire qu'on devrait sélectionner comme ça au sein des instants de sa vie ceux qui méritent de revenir éternellement et ceux qui ne le méritent pas. Alors si je vous demande, dans votre vie, est-ce que vous voyez quels instants méritent de revenir éternellement ?
Quels instants méritent de revenir éternellement ? Alors c'est marrant ce que vous dites parce que ça m'évoque... Ça m'évoque aussi, parfois, vous savez, on vit un instant, on a l'impression de l'avoir déjà vécu.
Ouais.
Alors, est-ce que ça rentre dans ce que vous venez de dire ? Mais moi, ça m'arrive souvent, des fois, je me dis, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça et je n'arrive pas vraiment à retrouver, comme si c'était dans une autre vie. Une impression de déjà vivre la situation.
Alors, c'est très intéressant, on a tous vécu ça, et il y a beaucoup d'études là-dessus. Il y a deux grandes interprétations. Une interprétation, on va dire, matérialiste, ce serait quelque chose comme une distorsion du nerf optique, tout simplement.
Ouais.
Donc, en fait, il n'y a rien de mystérieux, c'est juste qu'il y a cette espèce de décalage comme ça entre le vécu et la perception qui fait qu'on a l'impression de l'avoir déjà vécu. Bon, c'est pas très intéressant. Et puis, il y a l'autre interprétation qui est de dire qu'au fond, nous, les humains, nous sommes faits pour nous retrouver devant l'inconnu comme si c'était familier. Parce que notre destination d'humain est d'aller explorer de l'inconnu. Voilà, d'aller voir un public nouveau, une culture nouvelle, un amour nouveau, des choses comme ça. Et cela expliquerait ce sentiment de reconnaissance, au fond, au cœur de la rencontre de la nouveauté. Ce
D'accord.
serait très beau.
C'est bien parce que vous pouvez tout expliquer, c'est génial.
Non, je vous propose juste des interprétations.
J'aime bien. Mais alors, pour répondre clairement à votre question, en fait, je me dis que ce que j'aimerais revivre, c'est les premières fois.
Ouais.
La première fois que je suis montée sur scène pour avec l'expérience que j'ai, voir ce que ça fait une première fois. C'est comme si, c'est difficile à expliquer, mais avec mon expérience, revivre une première fois, ouais.
D'ailleurs, c'est quelque chose qui vous arrive de rejouer des chansons. Par exemple, les tubes. J'imagine que Du Courage, par exemple, à chaque fois que vous la rejouez, eh bien, c'est très intéressant de voir quelque chose de différent alors que c'est une répétition.
Mais en fait, je les transforme à chaque fois. Par exemple, un titre comme Du Courage, je veux lui mettre les deux pieds dans son époque. Alors chaque tournée a un nouvel arrangement de Du Courage.
Du Courage.
Alors cette chanson, d'abord je vous avoue quelque chose de personnel, il m'arrive de la mettre à fond quand j'ai besoin de courage, elle met vraiment la pêche. Comment vous définiriez le courage ? Alors je vais encore remettre ma casquette de prof de philo, je vois que vous m'y autorisez, en vous proposant de choisir entre la version Platon et la version Aristote. En fait, pour Platon, le courage c'est un absolu. En gros, il y a une vertu sublime, c'est d'être courageux, et on peut être guidé comme ça, dans son nécessaire courage, par l'absolu du courage. Ce à quoi Aristote, qui fut l'élève de Platon, objecte que c'est pas ça le courage, que c'est un juste milieu. Et que le courage, c'est pas un absolu, c'est de se tenir à égale distance de deux excès différents. L'un qui est la témérité, la tête brûlée, qui a peur de rien et qui a tort, parce que la vie fait peur. Et l'autre qui est la lâcheté. Et au fond, être courageux, ce serait être aussi loin, ça c'est ce que dit Aristote, de la témérité que de la lâcheté. Donc, vous qui avez fait très belle chanson, vous êtes plutôt platonicienne ou aristotélicienne ?
Je sais pas, pour moi, je simplifierais en disant que le courage, c'est arriver à un moment à se dépasser. Oui, trouver le courage, un dépassement de soi. Alors, je sais pas si ça correspond à Aristote ou à Platon. Vous le voyez dans quel sens, du coup ?
Ben, plutôt dans le sens de Platon.
Ouais.
C'est Platon qui est un idéaliste, il y a un absolu du courage, on se dépasse. Il faut du courage, parfois, pour monter sur scène ?
Non, il faut de l'envie, je dirais. Mais j'ai pas envie de dire du courage parce que ce serait... Non, il faut avant tout de l'envie. Et cette envie-là, j'ai jamais envie de la perdre parce que par rapport à des situations, ce serait inapproprié de dire « Oh, j'ai eu beaucoup de courage de monter sur scène. » Il y a des choses beaucoup plus dramatiques. Mais je crois que ce qui me mène toujours par le bout du nez pour mettre mes deux pieds sur une scène, c'est cette envie irrésistible de rencontrer l'autre.
J'aimerais vous faire écouter une voix que je crois vous appréciez beaucoup.
Est-ce que vous êtes vraiment inaccessible ?
Tout le monde est inaccessible quand il est sur scène. Vous êtes bien d'accord là-dessus ?
Non, oui ou non? Non, oui, c'est vrai. Bon, maintenant, je vous parais à l'aise. Non, c'est parce que je suis bien, je vois rire, je suis heureuse de vous voir et tout ça. Mais sachez bien qu'à partir de demain matin, je chante après-demain, je suis complètement enfermée. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Pas du tout pour me rendre inaccessible. Parce que j'ai peur. Je m'enferme parce que j'ai peur. Et que pour 2 heures de fête que j'essaye de ne pas rater, il faut que je m'enferme 24 heures. Mais c'est pas pour être mystérieuse. C'est parce que j'ai peur. C'est tout bête, vous voyez? C'est parce que j'ai peur.
C'est Barbara.
Ouais. Vous avez fait une sublime reprise de Barbara, enfin de la chanson qui est pour moi peut-être la plus belle chanson de tous les temps, quoi. Dit qu'on reviendra dessus. Et je crois qu'elle a un grand rôle dans votre histoire.
Ben, mes parents, ma mère l'écoutait. Ma tante l'écoutait beaucoup, c'était vraiment son idole. Et Barbara, je l'ai découverte plus tard quand j'étais étudiante. Je pensais pas la reprendre un jour, en fait. C'est une journaliste, Valérie Lehoux, qui m'avait proposé de venir avec elle faire une conférence chantée. Elle m'a dit, je veux que ce soit toi qui chante Barbara pendant que je raconte son histoire. Et là, au départ, je lui ai dit, mais t'es folle, non, j'y arriverai jamais. Je dis, laisse-moi un peu de temps. Et puis, je suis allée plonger dans ses chansons, j'ai travaillé à la guitare et je me suis dit, faut que j'arrive à m'approprier. Je pouvais pas refaire ce qu'était Barbara. Donc voilà, j'ai trouvé avec ma guitare une manière à moi de la chanter et c'est comme ça que j'ai décidé de garder Dis quand reviendras-tu sur l'album.
Mais d'ailleurs, je rassure les auditeurs, on y reviendra à Dis quand reviendras-tu.
Mais j'écoutais ce qu'elle disait, en fait, cette peur, c'est le trac.
Ouais, c'est surtout...
C'est le trac.
Ouais, c'est ça, c'est très troublant. Et c'est surtout, on entend que le courage, ce n'est pas d'être sans peur, c'est de faire avec ses peurs, c'est d'y aller avec sa peur.
Oui. Moi, je suis très traqueuse aussi. Je m'enferme pas, en revanche. J'ai besoin du contact avec mes musiciens, par exemple. Mais Barbara, elle s'était... il fallait qu'elle soit à part dans sa pièce, d'après ce qu'on a entendu. Oui.
Ouais. Je vous propose d'écouter une de vos chansons, Une vie.
Ne soyons pas ridicules, voyons-nous encore demain. Une vie, on n'en a qu'une. Toi et moi, prenons-en soin. Ne soyons pas ordinaires, droit debout face au destin. Une vie, on n'en a qu'une. Des chagrins, on en a plein. Toi, tout près de moi, j'écoute plein. Toi, à mon oreille.
C'était La Grande Sophie, cette très belle chanson, Une vie.
Sous le soleil de Platon.
Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour.
Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec La Grande Sophie, que nous venons d'entendre sur France Inter. Et cette chanson donc, porte pour titre Une vie, on y trouve cette très belle phrase. Une vie, on n'en a qu'une, des chagrins, on en a plein. Et vous dites aussi, ne soyons pas ordinaires. C'était quoi l'idée de cette chanson, si tant est qu'il y ait eu une idée avant ?
L'idée de cette chanson vient du refrain où je joue avec les mots. On en a plein, plein toi. Ça veut dire que la vie, elle va jusqu'à la plainte. Plus une personne, même si une personne se plaint, même si elle est très malade et à juste titre, elle se plaint, elle est toujours en vie. Et c'est ça aussi, cette chanson, de dire jusqu'où va la vie, jusque-là aussi. Elle est toujours en vie, elle peut toujours se plaindre.
Oui, c'est beau. C'est cette idée que se plaindre, c'est aussi être encore vivant, au fond.
Oui.
C'est comme les gens qui disent, qui osent dire avec beaucoup d'assurance, qu'ils manquent de confiance. Au fond, il faut de la confiance pour oser affirmer sans aucun doute qu'on manque de confiance. C'est un peu pareil.
Oui, c'est vrai ce que vous dites.
Alors revenons à Barbara, comme on l'avait dit, parce que c'était très belle reprise. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous reprenez cette chanson-là?
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour.
Alors évidemment, tout le monde a compris que ça c'était Barbara.
Oui.
Et maintenant, nous écoutons La Grande Sophie.
Printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir paru si beau en cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vis, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas et j'ai le mal. Et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu?
C'est tellement beau, j'aimerais qu'on écoute jusqu'au bout, mais on n'aura pas le temps. C'était donc La Grande Sophie reprenant Barbara. Alors je vais poser une question de novice, mais quand on reprend une chanson comme ça, est-ce qu'on est finalement porté au sens où c'est tellement beau qu'on participe de cette beauté? Ou est-ce qu'on n'est pas aussi un peu inhibé en étant dans l'ombre de la lumière incroyable qu'on essaye de faire revivre?
On est forcément inhibé parce que Barbara, c'est quand même un monument. Il faut trouver... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand j'ai répondu à Valérie, la journaliste qui m'avait proposé ça, je lui ai demandé du temps. Il me fallait du temps pour trouver ma place dans cette chanson. Alors Barbara, vous l'avez vu, elle la faisait en trois temps, elle l'a valsé. Moi, je l'ai plus binarisé, je l'ai un petit peu chaloupé. J'essayais de me dire, moi, comment, quel était mon ressenti et comment naturellement, mais avec tout l'histoire et le chant de Barbara qu'on connaît tous. Donc c'est pas évident, il faut arriver à effacer une partie de tout ça, ne plus écouter pendant un moment la version de Barbara et prendre sa guitare et se dire, alors moi je la ferai comment, voilà.
En tout cas, c'est une très belle réussite. J'imagine que vous avez voyagé dans d'autres reprises de Dis quand reviendras-tu. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous aimez bien, que vous trouvez belles,
que je connais? Et en fait, je les ai pas. En fait, voilà, quand on commence à faire une reprise de Barbara, on se dit, il faut surtout pas écouter ceux qui l'ont déjà aussi repris. Donc non, je suis pas allée.
Alors maintenant que c'est fait,
mais j'ai entendu par exemple.
Vous pensez à qui là?
Non, parce qu'après, j'ai entendu des chanteurs la reprendre. J'ai entendu Benabar, j'ai entendu aussi Jeanne Chiral la reprendre sur scène. Elle l'a pas reprise sur un album, je pense pas, mais en tout cas, je les ai entendues sur scène, oui.
Ouais, mais il y en a deux que j'adore. Il y a une de Jean-Louis Aubert et une de Benjamin Biolay, que je trouve très belle aussi.
Alors, qui sont sur des albums ou sur des lives?
J'avoue que je sais pas. Moi, je les écoute sur Spotify, pour tout vous dire.
Bah, ils doivent exister sur un album. Alors.
Mais ça doit exister sur un album. Alors, on retrouve d'ailleurs cette question du temps. Hein. Vous dites, voilà, je voulais du temps, finalement, pour me réapproprier cette chanson. D'ailleurs, on voit bien aussi que dans les écarts, par rapport au modèle, finalement, se joue votre singularité, quelque chose qui n'est qu'à vous. Et presque, c'est presque une démonstration philosophique. C'est-à-dire qu'au fond, on vous entend dans votre singularité de manière incroyable, au moment même de cette reprise d'un énorme standard.
Oui, c'est le but. À chaque fois que j'ai fait une reprise... C'est trouver qui j'étais, parce que je voyais pas la nécessité de refaire exactement ce qu'avait fait l'autre, parce que je ne suis pas l'autre. Et ça, quand j'étais petite, je reprenais les chansons en copiant. Mais après, j'ai bien compris qu'il fallait que je sois moi-même et qu'il fallait que une reprise, il faut que je trouve la manière dont qui va me correspondre, qui va me représenter, mais dans les mots de l'autre et dans la mélodie de l'autre, parce que c'est important de préserver la mélodie.
D'ailleurs, il y a une de vos chansons qui s'appelle « Quelqu'un d'autre ». Oui. Vous racontez ça aussi, ce désir qu'on a parfois d'être quelqu'un d'autre. Et c'est aussi d'ailleurs une définition de la culture que vous venez de donner. En fait, si je connais rien, je peux pas exister dans ma singularité, parce que j'ai pas une sorte de norme à côté de laquelle me singulariser. Mais si je suis cultivé, si j'ai des références, je vais pouvoir me positionner par rapport à ces références.
On a des modèles tous, on fait de la musique parce qu'il y a des chanteurs qui nous ont plu.
Bien sûr. Et dans votre cas, je crois qu'il y a eu aussi beaucoup Jacques Higelin, c'est ça ?
Higelin, je l'ai découvert moi plus tard, parce que souvent mes amis le découvrent à l'adolescence, moi je l'ai découvert bien plus tard. Moi c'était... j'aimais beaucoup John Baez, j'aimais beaucoup les Pretenders, Christiane. Je suis tombée littéralement sous le choc d'un concert des Pretenders.
C'était à quel âge ?
C'était le jour de mes 18 ans. J'allais voir un autre groupe, c'était UB40, et je suis tombée sur les Pretenders qui ouvraient avant eux. Et là, j'ai vu une chanteuse avec sa guitare électrique, ça confirmait que je voulais faire comme elle, alors que j'avais déjà un groupe, mais je voyais qu'elle était leaduse, et j'aimais bien ça, oui.
Je crois que vous avez monté un groupe très jeune, d'ailleurs.
Oui, j'avais 13 ans, oui.
C'est incroyable. Et c'était où, ce concert à 18 ans, ce choc ?
C'était à Montpellier.
J'ai l'impression que dans votre parcours, il y a beaucoup d'admiration et que vous nourrissez pas mal de cette admiration des autres. Vous savez qu'il y a pas mal de gens qui comprennent pas ça, qui pensent qu'admirer, c'est se sentir petit à côté de ce qui est grand. Alors qu'à l'inverse, je remets ma casquette de prof, pardonnez-moi, mais c'est Nietzsche qui disait « plus tu admires, plus tu grandis » au fond. Admirer la singularité de l'autre, finalement, c'est se nourrir de la possibilité de sa propre singularité.
Et c'est ce qui permet de rêver aussi. Alors moi, j'ai eu... Alors là, je vous ai cité des gens que j'aimais beaucoup en musique, des chanteuses beaucoup, parce que je m'identifiais certainement. Mais bizarrement, moi, mon idole, je n'en ai eu qu'une, et c'était Catherine Deneuve, une actrice, qui m'a ouvert un champ considérable sur les musiques de films, je regardais tous ces films sur une culture cinématographique que je faisais grâce à elle, oui, et puis même les musiciens, Georges Delerue, tout ça, qui ont accompagné nombre de les compositeurs de films. Le fait d'être fan de Catherine Deneuve me permettait de découvrir. C'est comme ça que j'ai découvert Gainsbourg aussi, quand il avait écrit un album pour elle. Ça m'a ouvert les portes sur Serge Gainsbourg. Donc c'est utile, bien sûr.
C'est intéressant, oui, de voir comme ça qu'il suffit d'être convoqué, quoi, par un point, en l'occurrence Catherine Deneuve, et ça ouvre sur plein d'autres choses.
Oui, des horizons.
Mais le problème, c'est quand on est convoqué par rien. C'est aussi le danger d'une époque où on n'admire pas assez, où il y a beaucoup d'ironie, voire de cynisme, et où, par exemple, la télé-réalité donne aux ados... des gens qui ne peuvent pas admirer et qui se retrouvent quand même dans la lumière.
Admire quand même, apparemment.
il les admire pas vraiment. C'est-à-dire qu'il les commente, ils sont un peu fascinés par la lumière, mais c'est pas ça la vraie admiration. La vraie admiration se mesure à ce qu'elle produit dans le sujet, et vous l'avez très bien dit. D'ailleurs, c'est assez marrant, cette admiration pour Catherine Deneuve. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle continue ?
Alors, Ça m'a longtemps poursuivi, mais depuis que je suis une adulte, et j'ai envie de dire heureusement, parce que ça m'a permis de faire ma culture, mais je suis pas, j'aime savoir regarder un film d'elle, mais je vais pas collectionner comme je collectionnais quand j'étais enfant.
Oui, vous étiez carrément fan.
Oui, j'étais très fan. Et c'est marrant parce que c'était l'opposé de ce qu'on pouvait trouver chez moi. Il y avait un côté très sophistiqué dans l'image qu'elle représentait, alors que chez moi, on était dans les banderoles de manifs, ce genre de choses. Ouais. Et moi, tout ce qui était l'opposé m'attirait. Je regardais j'enregistrais les Césars avec un magnétocassette. Alors ça, j'ai souvent raconté cette histoire, mais c'est véridique. Je mettais le magnéto au pied de la télé et le soir, pour m'endormir, je me passais la cassette des Césars pour rêver. J'agrandissais mon champ des rêves.
C'est beau. Alors je vous propose maintenant un petit quiz. Donc l'idée du quiz, c'est des réponses plutôt courtes.
Ouais.
Et il n'y a pas de piège, hein, c'est juste une manière de vous rencontrer. Alors, la grande Sophie, joie ou bonheur ?
Joie parce que c'est spontané. J'ai envie de dire, c'est un éclat de joie, c'est spontané, oui.
Rébellion ou acceptation ?
Acceptation.
Booba ou Nekfeu?
Nekfeu.
Pourquoi?
Parce que je pense que j'arrive mieux à capter l'univers. Booba, je capte pas tout, je crois.
Stoïcienne ou épicurienne?
Épicurienne.
Hier ou demain?
Demain.
Courage ou audace?
Ah, mais j'ai envie de dire audace.
C'est quoi la différence?
Courage, c'est... je crois qu'il faut aller chercher une force, j'ai l'impression. Et l'audace, il y a un côté plus spontané, moins réfléchi que le courage.
Mais il faut faire une chanson, alors que vous avez fait du courage, il faut faire de l'audace maintenant.
De l'audace.
Platon ou Aristote?
Alors tout à l'heure, vous m'avez dit que j'étais plutôt Aristote,
ouais.
Apparemment.
Non, plutôt Platon.
Ah non, alors Platon...
Vous avez le droit de changer d'avis. Hein.
Ouais.
Absolu ou relatif?
Alors, oui, ça c'est dur. Tout est absolu ou tout est relatif? C'est dur, j'arrive pas à répondre. J'ai envie de dire les deux, mais...
Non, mais justement, on va du coup sortir du quiz et on va rester sur cette question. Absolu ou relatif, la grande Sophie?
Dans l'absolu, je vous dirais que tout est relatif.
Ouais, si vous affirmez que tout est relatif, c'est un absolu. Justement, je propose maintenant d'écouter Annie, I Want, et nous allons voir ce que c'est que la limite du volontarisme. Annie.
I'm sweet, I'm chasing my dreams. You're Aggie with me, cause I didn't fit in the mold of your schemes. I'm reckless enough to go spend all my fees, but cautious enough to invest in my dreams. The vision, the board, the flying abroad, the Gucci, the Prada, you're lost in the sauce. I'm lost in the stew, I'm lost in the concept of fixing a brew. Identity crisis for me and my crew. We're black and we're British and African too, but so far removed. I'd like to go back to my mother's land. I'd like mental peace and 100 grand and a peg. And we'll do up raves like it's 98. I'm so 94, but I won't. Work a lot more money, a vacation home, a Nigerian honey who laughs at my jokes even when they're not funny. Support my cause and I'll support yours. Buy me a Benz, look, I'll buy you a Bimmer. Posted in Jamaica, Beanie Man, Sim Simmer, a Honda Accord. Who's got the keys to the Porsche? Force, he's got some keys to afford. I'm so flawed, but that's calm. I can't sleep, I take calms. Herbal remedies like tea for me. Bougie, drinking wine and cheese. Catch me in the dance, drinking wine, say cheese. You got that foot in your mouth situation. I got that foot up my inspiration. World domination. But I won't.
C'était Any I Want.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec la grande Sophie sur France Inter et c'est bien agréable. Vous avez beaucoup voulu, la chanson s'appelait I Want, hein, vous avez beaucoup voulu pour en arriver là.
J'ai d'abord rêvé et j'ai voulu, je savais, en fait, j'ai eu la chance de savoir très tôt ce que je voulais faire. Donc ça a été, j'ai poursuivi mon adolescence, et l'âge adulte avec j'avais un point au loin où je savais vraiment que je voulais écrire des chansons, les chanter en public. Et même si j'ai fait des petits boulots, c'était mon objectif, oui, arriver à faire ce qui me plaît.
Ouais, c'est beau ce que vous avez dit. Vous avez dit, j'ai d'abord beaucoup rêvé avant de vouloir. Je crois que c'est les paroles presque exactes de la chanson de France Gall. Viens, je t'emmène.
Ah, j'adore cette chanson. Ouais. Je l'adore.
Elle est belle. Elle dit un truc comme ça. Elle dit.
Viens, ouais. Je t'emmène. L'autre fois, je l'ai chantée dans ma chambre, en plus.
J'ai tellement rêvé que j'y suis arrivé.
Ouais, que j'y suis arrivé si loin, si loin.
Et ça paraît rien. Bon, c'est des paroles de Michel Berger, je pense, mais ça paraît rien. Mais c'est très, très fort de dire ça. Ça veut dire, au fond, OK, il va y avoir un moment où je déploie de la volonté, mais d'abord, j'ai rêvé. D'abord, ça a été naturel, spontané. D'abord, j'ai eu un désir, une étoile. Puis après, peut-être, j'ai fait des pompes et il y a eu un bras de fer. Mais simplement, après...
Il y a
après.
Eu du travail, il y a eu une expérience aussi, il y a eu un apprentissage aussi. Moi, comme je viens de la scène, j'ai tout appris sur scène. Et oui, j'ai commencé dans des tout petits lieux, des lieux où il n'y avait même pas la place de mettre ma grosse caisse et ma guitare. Donc, c'est cet apprentissage-là aussi que j'ai toujours en tête, parce qu'il a progressé en bien.
Mais d'ailleurs, à propos d'apprentissage, vous faites quelque chose d'hallucinant dans le dernier album, c'est que vous nous jouez un morceau de piano sans chanter, alors que vous ne savez pas jouer au piano. Ça s'appelle Huis Clos et c'est un peu troublant comme démarche. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ?
Déjà, j'ai voulu me dire qu'à n'importe quel âge, on pouvait se lancer dans quelque chose, apprendre le piano. Je ne l'ai pas appris avec quelqu'un, mais en tout cas, je voulais l'objet chez moi. Et une fois que j'avais l'objet, cet objet, tous les jours, je posais mes doigts dessus et au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, tu vas écrire un morceau, en tout cas. Et que je l'ai écrit parce que j'étais très impatiente. Impatiente, pourquoi ? Parce que j'étais en studio à ce moment-là et que j'attendais beaucoup de réponses de mes réalisateurs. On s'envoyait des pistes, ils me renvoyaient de la matière. Mais j'attendais parfois des semaines et je ne pouvais pas rester comme ça, les mains ballantes. Donc tous les jours, je construisais durant cette attente, je construisais ce morceau que j'ai voulu appeler Huis Clos parce que c'était le piano et moi. Et est-ce que j'allais y arriver ? Je n'écrivais pas les notes, mais chaque jour, je devais me souvenir de ce que j'avais voulu écrire hier.
On écoute un petit peu, c'est très beau d'ailleurs. Mais toutefois, j'ai l'impression que vous trichez un petit peu, parce que j'imagine que vous avez retrouvé quand même tout ce que vous aviez déjà vu chez des musiciens, et puis des accords de guitare que vous avez plaqués. Enfin, vous n'étiez pas complètement novice quand même. Parce qu'on a l'impression d'écouter un concert de Kate Jarrett.
Non, mais en fait, alors ce qui s'est passé, c'est que j'aimais beaucoup bluffer mon mari, qui savait que je ne savais pas jouer de piano. Je me mettais devant le piano et je me lançais. Parce que souvent, il ne faut pas avoir peur pour... Voilà. Et là, j'avais pas peur. Parce qu'il y avait que lui et moi dans la pièce. Et puis, je lui disais, et ça, t'as vu? Et puis, il me disait, mais comment t'as fait? Et en fait, je m'amusais à construire comme ça. J'ai réussi à faire ça, donc demain, je vais faire autre chose. Je m'entraînais, et puis après, je le reproduisais.
Mais vous l'avez aussi laissé sur l'album, quand même.
Oui, parce que ce morceau, il représente tout le processus de création de mon album, toutes ces heures d'attente. Qui ont lieu aussi quand on travaille avec des gens. On envoie, maintenant, vous savez, c'est beaucoup de fichiers par Internet qu'on s'envoie, qu'on attend. Et moi, j'ai du mal à attendre.
Mais d'ailleurs, c'est aussi le rapport au temps qu'on entend encore. Parce que c'est une manière de dire, voilà, c'est pas parce que j'ai 50 ans que j'ai pas le droit de commencer le piano.
Exactement.
Et à mon avis, c'est une très belle leçon de vie. D'ailleurs, il y a quelques années, vous aviez fait un spectacle en mettant en musique des textes de Delphine de Vigan. Et il était question justement aussi de ces différents âges de la vie. Je crois qu'il y avait cette idée, mais que vous allez peut-être développer maintenant, que au fond, il faut trouver la sagesse associée au bon âge.
Je ne sais pas s'il faut trouver la sagesse associée au bon âge. Avec Delphine, ce qu'on a fait, c'était une lecture musicale. On a construit une histoire à travers ses textes et en faisant écho à mes musiques sur les différents âges de la vie. Mais est-ce qu'on doit forcément avoir la sagesse de son âge? Je dirais pas ça, parce qu'il faut... Moi, j'ai pas envie de me dire, à 60 ans, il faut avoir cette sagesse-là, pas du tout.
il y a peut-être quand même des choses qu'on, par exemple, vous évoquiez, je crois, dans ce spectacle, un âge de discrétion. C'était quoi ?
L'âge de... Non, alors, non, pas dans ce spectacle, parce que ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle... c'est l'âge de discrétion qui est de Simone de Beauvoir, parce qu'elle revient sur... Elle se rend compte de choses qui se passent dans sa vie, des relations avec son mari, et elle, son fils qui s'en va. Donc, elle est très dans le présent avec... voilà, elle se rend compte de plein de choses. J'aime pas divulguer tous les, parce que ça empêche de lire le lecteur. Ouais, c'est ça, j'aime pas spoiler. Mais ce livre m'avait marqué parce que certainement je me posais aussi des questions à cette époque-là.
Ouais. Non, mais c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des choses, il y a des comportements qui sont très beaux à 16 ans et un peu ridicules à 60 quand même. On n'est pas obligé de se penser complètement libre. Il y a quand même des âges de la vie.
Bien sûr, il y a des âges de la vie, il y a des choses qu'on fait moins bien ou mieux. Mais j'aime pas qu'on se dise, qu'on se mette des freins obligatoirement parce que c'est l'âge qui nous dit ta jupe, eh ben elle va pas dépasser, elle va pas être au-dessus de ton genou. Ça, j'aime pas ça. C'est se mettre des barrières. Non, on peut avoir une certaine liberté là-dessus et sentir. En fonction de l'âge, ce qu'elle nous permet de faire et de sa santé aussi, beaucoup.
Oui, alors, quand je repense à cette chanson qu'on a entendue tout à l'heure, de vous, Une vie, d'abord, ça me fait penser un peu à Alain Souchon, notamment à cette très belle parole, « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie
».
Mais ça m'amène à une question, au fond, pour vous, qu'est-ce qu'une bonne vie, ou même, qu'est-ce qu'une vie réussie, au fond ?
Une vie réussie... ça dépend des gens. Moi, ma vie, je voulais, en tout cas, j'avais envie de faire ce que je souhaitais, ce que je vous disais, partir d'un rêve et pouvoir réaliser mon métier, qui est devenu mon métier, chanteuse, compositeur, interprète. J'ai réussi ça, mais je peux pas le dire pour les autres, puisque chacun se met, d'autres personnes ont d'autres rêves. C'est avoir ce choix-là, en tout cas.
Ne m'oublie pas sur la porte, au milieu de tes clés. Ne m'oublie pas sous la flotte d'un parapluie mouillé. Ne m'oublie pas au fond d'un tiroir rouillé ou dans un vieux cahier. Ne m'oublie pas sur ta bouche à en perdre tes mots. Ne m'oublie pas quand tu touches une autre avec ta peau. Ne m'oublie pas ailleurs, les idées traînent.
En tout cas, on a l'impression que vous savez comment faire pour qu'on ne vous oublie pas. Trouver les bons mots. C'est vous qui écrivez vos paroles, je le précise,
oui.
Depuis toujours, enfin, au fond. Enfin, depuis au moins quoi, 20-25 ans. Vous avez commencé au début par ne pas oser, et puis très vite, oui. Vous avez écrit vos propres textes. Il y a des textes très beaux, je trouve, d'ailleurs. Vous avez peur d'être oublié ?
Oh, certainement. Certainement, oui, oui. Oui, d'ailleurs, si je le chante, c'est que oui, j'ai le besoin de le crier. Oui, de laisser une trace quelque part aussi, oui.
Parce que vous savez, les Grecs anciens voyaient l'oubli comme pire que la mort. Pour eux, la mort, c'était sympa, si on se souvient, si c'est une mort glorieuse au combat. Mais le pire, c'est d'être oublié, c'est qu'on ne se souvienne pas. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que faire des chansons, c'est laisser tellement d'émotions, c'est vivre au fond vraiment comme un... C'est vivre fort, quoi.
Mais c'est ce que vous venez de dire. Pour moi, une chanson, c'est véhiculer de l'émotion. Et j'espère qu'à chaque fois que j'arrive dans une ville, moi je dis que je distribue des petits bonheurs. J'espère que les gens ne restent pas indifférents pour ajouter à ce que vous venez de dire. Oui, l'indifférence, c'est pire que tout, j'ai l'impression. Mais l'émotion, quand on arrive à... Il y a un ressenti de ce que de ce qu'est en train de faire l'autre. Je m'exprime mal, là, ça y est, je perds. Mais vous me regardez, mais vous m'aidez pas.
Non, c'est parce que...
Est-ce que vous comprenez?
Je vous comprends, mais je me disais aussi quelque chose d'amusant, c'est que quand on vous passe autant de vos chansons, qui sont très bien écrites, c'est dur, effectivement, entre les chansons, d'avoir le même niveau de précision, puisque c'est des chansons ultra travaillées et que c'est de la belle chanson française. Donc moi, je trouve ça assez beau, justement, que vous soyez plus hésitante entre les chansons que dans les chansons.
Mais c'est pour ça que j'écris des chansons, parce que c'est beaucoup plus dur pour moi de donner une interview que d'écrire des chansons, parce qu'évidemment, je vais choisir tous mes mots, et là, je vais partir en vrille au bout d'un moment. Donc, c'est... Oui, Je pense que j'arrive beaucoup, je suis meilleure à l'écrit qu'à l'oral.
D'ailleurs, il y a une de vos chansons que je trouve très belle qui porte pour titre « Où vont les mots ?».
Oui.
Vous pouvez me dire la suite, parce que je sais que c'était très beau, mais je m'en souviens plus. Là.
Où vont les mots quand ils tournent autour du pot, quand ils cherchent le bon endroit pour arriver jusqu'à toi. Quand ils se perdent et reviennent, quand ils sont là éternels, où vont les mots? C'est une chanson que j'avais écrite pour Françoise Hardy au départ.
Ah oui, je savais pas.
Et en fait, elle m'a dit, cette chanson, elle est pas pour moi, elle est pour toi. Et parce qu'au départ, je lui avais dit, si tu devais écrire une chanson, elle parlerait de quoi? Et elle m'avait dit, oh ben moi, toutes mes chansons tournent autour du même pot. Et de là, j'avais pris le mot pot, et j'avais dit, où vont les mots quand ils tournent autour du pot?
Où vont les mots quand ils tournent autour du pot? Quand ils cherchent le bon endroit pour arriver jusqu'à toi? Quand ils se perdent et reviennent? Quand ils sont là éternels? Où vont les mots? Ceux qui glissent sur ta peau, qui ne font plus écho, ceux qui se jettent contre un mur que tu prends dans la figure. Où vont les mots? Ceux qui s'imposent, dont on dispose.
C'est une super belle histoire, hein? D'écrire pour quelqu'un et que ce soit pour vous, au fond. Ça me fait penser à une anecdote qui nous montre combien parfois ce qui est le plus à nous, finalement, on le prête aux autres. Et puis, c'est comme ça qu'on devient soi. C'est une anecdote assez connue des philosophes. C'est Pascal qui avait dit, je voudrais être enterré avec mon plus beau texte. Sous-entendu, de moi, quoi. Et puis, avant de mourir, il donne ce texte. Et il demande que ce texte soit cousu dans la doublure de sa veste mortuaire. Et on se rend compte, une fois qu'il est mort, que ce n'est pas un texte de lui. Et qu'il appelait, au fond, son plus beau texte, le texte d'un autre. Vous écrivez pour une autre. Françoise Hardy, en fait, c'est pour vous.
Bah, à la base, c'était pas prévu comme ça, et puis je me suis dit, elle a peut-être raison, je vais la garder.
Dans votre parcours, donc on connaît, il y a eu beaucoup de tubes, et puis vous êtes devenue une figure de la musique, enfin du rock français. Quelque chose qui me fait un petit peu penser à Dominica, mais je dois me tromper, dans cette espèce de référence que beaucoup de jeunes invoquent comme une sorte de repère, de boussole.
Vous parlez de Dominica, je pense, parce que c'est la même période où on se retrouvait, on se croisait pas mal sur des scènes à la même époque. En fait, c'est le milieu des années 90.
Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est plutôt, on voit ses succès, mais est-ce qu'il y a eu dans votre chemin un échec qui a été particulièrement vertueux ou même une épreuve qui a été particulièrement enrichissante?
J'ai un parcours où tout prend du temps assez long, c'est-à-dire que j'ai commencé dans des petits lieux, le public, j'ai progressé au fur et à mesure, et d'ailleurs même mon premier album n'a pas fait beaucoup de bruit, et j'ai construit en allant de... Tout s'élargissait en fait, comme un entonnoir, voilà. Et il y a des gens, c'est l'inverse, ils font un gros coup d'éclat, et puis... Et moi j'ai l'impression que je construis comme une petite fourmi à chaque fois, que j'avance comme ça.
Mais est-ce que vous aviez... parallèlement, le fantasme du succès très rapide et foudroyant ou pas?
Je crois que j'ai pas recherché ça. Au début, j'avais besoin d'apprendre. Parce que je me souviens quand j'avais d'autres copains chanteurs qui faisaient le tour des maisons de disques. Moi, je préférais d'abord mettre mes pieds sur scène et après aller voir une maison de disques. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça s'est passé.
Je vous pose une dernière question sur le temps. Est-ce que parfois vous arrivez à prendre vraiment votre temps?
Oui, en ce moment, je le prends beaucoup. Parce que, bon, déjà, moi, j'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois. Donc, je suis quelqu'un qui doit mesurer son temps et ne pas se disperser. J'ai tendance à être très bordélique à la base. Donc, je sais qu'à chaque fois que je fais quelque chose, il faut que je prenne le temps de le faire, sinon ça va être n'importe quoi.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, la grande Sophie, de nous avoir rendu visite sous le soleil de Platon.
Merci
qui
à
était
vous.
Aujourd'hui plutôt sous le soleil d'Aristote. Hein.
Voilà.
Je vais essayer de résumer la philosophie de la vie qui a été la vôtre ce matin. Mais d'abord, n'oublions pas que vous êtes en concert le 17 septembre à Roya, le 18 septembre à Istres et le 29 septembre à Montauban. Ce que vous nous avez laissé entendre, au fond, c'est un amour de la vraie vie. La vie qui se construit peu à peu. La vie qui n'est pas comme ça dans l'illusion d'avoir tout tout de suite. Une vie qui s'inscrit aussi sur un visage. Et je pense à cette belle chanson où vous décrivez quelqu'un qui ne se reconnaît pas et puis qui finalement se reconnaît quand même. On a aimé aussi sentir cette délicatesse, cette approche comme ça, cette finesse aussi psychologique dans les paroles, et puis aussi cet amour de mots qui sont offerts comme ça, qui sont lancés et qui vont dans différents endroits. Je reprendrai ce titre, Où vont les mots. Et j'en profiterai aussi par un conseil de lecture pour vous et puis pour les auditeurs. Un très bon livre qui s'appelle Middle Age, d'un philosophe qui s'appelle Hamilton, et qui nous raconte ce que c'est qu'être en milieu de vie. Je crois que vous avez 50 ans.
Voilà, ça m'intéresse.
Et être en milieu de vie, ça veut dire à la fois sentir qu'on est passé dans la deuxième moitié, et puis en même temps vivre ce paradoxe qui a une puissance d'exister plus grande, une connaissance de ses forces plus grande, et en même temps une fragilité également
Middle
plus
Age.
Grande. Exactement, Middle Age de Hamilton aux éditions Autrement. La grande Sophie, merci beaucoup, c'était un plaisir.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot, avec à la technique Raphaël Rousseau, à la programmation musicale Valentine Chedebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les matins à 10h, sous le soleil exactement, sur France Inter, sous le soleil de Platon.